Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, par les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport. Cette semaine, c'est un grand plaisir de recevoir Charles Philibert Thibouteau, qui est mon ancien collègue au Rouge et Or. Je ne sais pas si collègue c'est le bon mot, mais qui a fait ses années dans le Rouge et Or athlétisme pendant que moi, j'étais dans le Rouge et Or natation. Je me rappelle même que c'est arrivé quelques fois, je pense deux fois, où est-ce qu'on était les deux nominés pour l'athlète de l'année individuelle, l'athlète de l'année, pardon, en sport individuel pour le Rouge et Or, puis que Charles gagnait, puis que là, moi, j'étais là avec ma petite plaque marquée nominé, puis je le félicitais sur le stage. Bref, Charles, qui est un coureur de demi-fond, qui fait du 1500 et du 5000 mètres. Il a fait des records canadiens, plusieurs records québécois. Il est allé aux Olympiques à Rio en 2016. Puis là, il s'entraîne présentement pour son objectif ultime, qui est une médaille aux Jeux Olympiques de Paris 2024. On est allé geek quand même dans le podcast. Je sais que le podcast Upika, on va geek souvent. Là, on est allé vraiment geek dans la préparation spécifique pour les épreuves que Charles fait. Même si le 1500 et le 5000 mètres ont l'air d'épreuves quand même assez différentes, Charles nous explique que l'entraînement est somme toute similaire. Fait qu'on va vraiment en précision dans une semaine type. Quel type de séance, c'est quoi les entraînements clés de son programme, puis aussi plus macro, comment il gère son année en vue évidemment des Olympiques en 2024. On est allé cette fois-ci dans le studio, on a loué un espace en fait parce que quand je suis à Montréal, je suis dans le studio SF. Quand je suis à Québec, je suis un petit peu partout. Vous avez vu les derniers podcasts à Québec, mon studio, mon setup mobile, où est-ce qu'on est dans un bureau random au PEPS de l'université. Là. Mais là, on a loué le Façade Studio, qui est un studio où est-ce que vous pouvez créer du contenu. Si vous êtes de Québec, vous êtes de passage à Québec, vous cherchez une place pour créer du contenu, des photos de produits, des photos lifestyle, ce genre de choses-là. Ils ont trois setups bien différents. L'éclairage est déjà sur la coche. Ils ont toutes les affaires que vous avez besoin. Une salle de toilette, une toilette évidemment, salle à manger, cuisine, salle de break. Fait que si vous avez des shootings photos à faire, des shootings vidéo à faire, n'importe quoi d'audiovisuel, allez voir ça, Façade Studio, je vais mettre le lien dans la description du podcast. Finalement, le podcast est présenté par Upika. Upika, c'est quoi? C'est une compagnie de suppléments de sport d'endurance. En ce moment, on a un produit, c'est le Upika Endurance, qui est un tout-en-un pour vos sports d'endurance. 25 grammes de glucides pour votre énergie, dont 16 grammes de dextrine cyclique, qui est un glucide qui quitte l'estomac rapidement, donc qui évite les inconforts digestifs. 300 mg de sodium, rétention d'eau. Et des électrolytes, large profil d'électrolytes, devrais-je dire, comme c'est marqué sur l'emballage, pour remplacer les électrolytes que vous perdez à la sueur. Taurine pour la thermorégulation et la création d'énergie. Vitamine B et C pour réduire le stress oxydatif sur les muscles lors d'efforts de longue durée. Et dans la formule Endurance Plus, on a 100 mg de caféine pour augmenter la vigilance et une panoplie d'avantages physiques et cognitifs liés à la caféine. Je vais justement recevoir prochainement une nutritionniste du sport qui va venir nous parler de l'importance ou du moins des bénéfices de la caféine. Donc, restez à l'affût pour ça. Allez au upika.ca et utilisez le code UPIKA. Pod 2023, donc Upika POD 2023 pour 10% de rabais sur votre première commande. Sans plus attendre, je vous laisse avec cette conversation avec Charles Philibert Thibouteau. Ça roule. Salut, man.
Salut, ça va bien, toi?
Yes,
ça fait longtemps, hein?
Maison que ça fait longtemps, man. Maison. Dernière fois qu'on s'est vu, ben, ça devait être quand que je nageais encore, dans le fond, notre dernière année. On a dû croiser au PEP, ça m'a amené.
T'as gradué quand, non?
2016,
ouais. 2016, OK, c'est ça. J'ai gradué 2015.
Ça fait longtemps, quand même, hein?
Dans ma tête, c'était hier, là.
Ouais,
ouais. Mais ouais, c'est ça, fait que notre passage, c'est pas mal chevauché. Là.
Ouais, hein? Ouais. Tu pensais-tu que t'allais continuer aussi longtemps que ça à faire du sport après l'université?
Aussi longtemps que ça...
Je parle comme si ça faisait 20 ans, là, mais ouais. Genre, tu sais, parce que...
Ben oui, quand même, pour répondre à ta question, mais en même temps, dans des sports olympiques ou des... des sports où il y a un haut taux de blessure comme en course à pied, ouais. Si tu passes 30 ans, d'habitude, t'es comme dans 1%. Là, ouais. Puis c'est là que je suis. Toutes mes amis, la majorité de mes amis ont pris leur retraite.
Ouais.
Genre là, je me tiens avec des jeunes qui ont 23, 24, 25 mm-hmm. ans. Tu sais, là, ça commence à... Tu sais, je commence à me sentir vieux un peu. Fait que, ouais. Tu sais, quand j'ai commencé, je me disais, j'aimerais ça avoir une longue carrière. Mais là, je suis rendu au stade où c'est comme... Bon, c'est comme moi, le vieux bonhomme.
Ouais. C'est fou, hein?
Ouais.
C'est fou parce que, en fait, en plus, dans ces sports-là, tu sais, des sports comme, comme la course à pied, c'est des sports d'endurance. Puis l'espérance de vie est plus longue que comme 25 ans, tu sais. Mm. Genre, puis le pic arrive quand même plus tard un peu.
Ouais.
Puis le monde arrête avant ça, tu sais.
Ouais, ben il y a plusieurs facteurs, là. Puis tu sais, je pense que... moi comment j'explique ça, c'est qu'il y a une espèce de biais dans comment les gens expliquent qu'il y a un pic dans ces sports-là. Tout le monde est comme... tu piques à 25 ans, mm-hmm. après ça, t'es plus vraiment au top de tes capacités, mais... Ouais. Il y a un peu un biais quand on fait une analyse comme ça, parce que ce qui arrive, là, c'est que de 21 à 25 ans, tu as une espèce d'énergie jeune que tu es capable de tout faire, tu es capable de t'entraîner comme un malade, tu sens que tu n'as aucune limite, puis tu pousses, puis tu pousses, puis tu pousses. Puis à un moment donné, tu pognes ton meilleur niveau à vie, évidemment. Puis en course à pied, ce qui arrive après, c'est que tu te blesses.
Ouais.
Tout le monde va se blesser. Ça peut être des blessures mineures, ça peut être des blessures majeures, mais la plupart des gens qui ont des blessures majeures, là, ce qui arrive après, c'est qu'il y a des changements biomécaniques qui arrivent à leur corps parce que le corps compense, puis dans leur réhabilitation, dans leur plan de réhabilitation, ils ne sont pas capables de revenir être aussi efficaces qu'avant.
Mm-hmm.
Puis à un moment donné, c'est juste que mentalement, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile de passer à travers des blessures, à travers des périodes comme ça. Puis le monde lâche, c'est littéralement ça.
Mais ouais.
Moi, je suis un peu d'avis que si tu prends soin de ton corps, si biomécaniquement tu t'assures que tout est correct, ben la maturité à m'amener à rentre, puis ça aussi, ça vaut pour beaucoup. Là.
C'est ça.
Comme moi, présentement, je m'entraîne... Je peux pas m'entraîner aussi fort que je m'entraînais quand j'étais à l'université, mais je m'entraîne 100 fois plus intelligemment.
Ouais.
J'ai plus de maturité. Quand je m'entraîne des entraînements ciblés plus durs, je suis capable d'aller chercher beaucoup plus de moi-même que je le faisais dans le temps. Puis, tu sais, on voit aussi, dans la NBA, là, avec LeBron James, Steph Curry, tous ces gars-là, c'est des gars qui, évidemment, tu sais, LeBron James, il était bon à 18 ans déjà, puis il était dominant de 18 à 26, mais... On peut dire qu'il est encore aussi bon maintenant, mais c'est juste qu'il gère un peu son effort différemment.
Exact. Il n'est plus capable de sauter nécessairement aussi haut, mais il compense par un million d'affaires dans son...
Ben moi, je pense qu'il saute aussi haut, mais c'est juste qu'au lieu de dunker, tu sais, au lieu d'avoir l'espèce de genre de cockiness que tu peux dunker dans la face d'un gars 6 fois dans le même game, il va le faire une fois, puis il va être content.
Ouais.
Mais ça reste que il average le même nombre de points qu'averageait il y a 10 ans, là. T'sais, puis c'est peut-être pas en faisant 5-6 dunks par game, mais c'est en faisant des shots qui sont un peu plus safe, puis des choses comme ça. Fait que, t'sais, on le voit dans plusieurs sports que, t'sais, on a une perception qu'être vieux, c'est d'être moins athlétique, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut juste être capable de se rendre là en santé. Puis une fois que t'es là, la maturité elle t'amène beaucoup. T'sais. Puis c'est pour ça qu'en course à pied, là, moi, je suis un vieux, j'ai été capable de me réhabiliter, j'ai été capable de faire le travail qu'il faut pour revenir en santé. J'ai été blessé beaucoup, mais je suis revenu en santé. Puis là, je suis plus fort que j'ai jamais été.
Ouais.
Puis j'ai la maturité qui vient avec, mais c'est dur parce que cette espèce de période-là de blessure, c'est la majorité des gens qui passent par le travail.
Ouais. Puis est-ce que tu penses, puis je sais que toi, ça a été aussi un sujet qui avait été abordé, là, c'est le support financier par les fédérations. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai dépassé 21 ans en natation, là, je perdais une identification X de la Fédération de natation du Québec parce que là, j'avais plus de 21 ans, j'étais encore le meilleur, tu sais. Sauf que là, on donnait ça à quelqu'un qui avait 17 ans parce que, puis là, moi, j'arrivais, j'étais comme, ouais, mais... Je comprends bien, là.
Ouais.
Mais j'en ai besoin aussi de cet argent-là, là, tu sais. Genre, j'ai 21 et j'ai pas 42, là, tu sais. Fait que ça doit aussi s'ajouter, j'imagine, au fait que le monde décroche plus tôt, là. Parce que toi, je sais que ça a été quelque chose qui a été parlé beaucoup, là, avec la fédération.
En fait, moi, ce qui m'a sauvé, c'est que pendant plusieurs années où ça a été plus difficile, j'ai eu un support privé. ouais. commanditaire là, privé, que ça, ça m'a vraiment sauvé, ça m'a gardé la tête en dehors de l'eau. Ouais. C'est ça qui m'a permis de continuer. Mais il y a beaucoup de gens dans ces circonstances-là qui perdent ce sport. Puis tu sais, c'est pas qu'ils seraient pas capables de revenir. C'est juste qu'à un moment donné, si t'as plus de support, puis tu t'endettes à essayer de revenir à un niveau de forme, de revenir dans le sport.
Ça coûte cher une semaine à Flagstaff, là.
Non, c'est ça. Non, c'est vraiment dur, tu sais. Fait que il y a des aspects externes aussi comme ça qui ont un impact. Puis je te dirais aussi que moi, je suis représentant des athlètes chez Athletics Canada, puis je suis sur le comité qui fait les critères pour tout ce qui est
carding, identification.
Carding, mais aussi les équipes nationales. Puis ça s'est quand même amélioré dans les dernières années, mais je te dirais que. Puis là, je parle pour Athletics Canada, mais je pense que c'est le même dans beaucoup de sports. Il y a beaucoup d'âgisme dans les critères. Puis là, les critères font en sorte que c'est moins noir sur blanc. Là, mais tu sais, je me rappelle d'une époque à Athletics Canada où c'était comme exactement ça. Tu sais, passé un certain âge, on s'attend de toi que tu sois là, puis si t'es pas là, ben on te ditch pour quelqu'un de plus jeune. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà fait le calcul, là. La fédération a ditch à chaque année quelques athlètes comme plus vieux qui sont vraiment expérimentés puis qui vont encore aux mondiaux, qui vont encore aux Jeux olympiques en disant qu'ils veulent investir dans la jeunesse. Mais j'ai regardé tous les chiffres de carding des athlètes plus jeunes, de ceux qui ont comme un carding développement, ceux qui vont sur le programme développement pendant un an puis qui reviennent jamais après. Puis sur les 11 dernières années, il y avait une moyenne de 5 à 6 athlètes.
Ah ouais. Hein?
Qui étaient jeunes, qui allaient sur le programme de développement, mais que ces jeunes-là, finalement, il n'y a rien qui se passait avec eux.
Pendant que tu as encore du monde plus vieux qui représentent encore le pays puis qui s'entraînent encore à temps plein.
Ces jeunes-là, ils font pas les mondiaux, ils font pas les olympiques. Ils se font donner le carding des plus vieux. Puis après un an, ils ne viennent pas assez bons, ils ne développent pas pour rester sur le programme. Puis, tu sais, 5-6 athlètes, c'est
énorme.
C'est au-dessus de 100 000 par
année.
C'est
massif. Là,
c'est au-dessus de 100 000 par année que la fédération pas qu'elle met dans le vide, parce qu'il faut investir quand même dans la jeunesse. Mais
qu'elle met dans des athlètes qui, finalement, n'aboutiront pas. Là,
c'est ça. Tandis que t'en as que si tu continues à les supporter, ils vont être aux Olympiques. Là,
ouais, c'est ça, exact.
Fait que, non, regarde, j'ai eu le nez là-dedans pendant un bout de temps, en effet. Puis, c'est facile de parler pour moi parce que j'ai été sorti d'un programme, là je suis revenu dedans, tu sais, puis j'ai fait les protèges, j'ai fait tout, je suis passé à travers tout le tralala.
Ouais.
Mais tu sais, en tant que fédération, faut que tu gardes un équilibre entre ton talent, ton top talent, ceux qui sont aux mondiaux, puis ceux qui participent aux Olympiques, puis mais ta jeunesse aussi, il faut que tu la cultives, puis c'est. À un moment donné, c'est pas comme si les fédérations étaient riches puis avaient tant d'argent.
Ouais, ben c'est ça. Il y a une sélection qui doit être faite, mais il y a quand même une réflexion autour de ça qui doit être faite aussi, parce que si t'as pas de tu sais, tu dis que tu chilles avec du monde de 25 ans qui s'entraînent encore, mais eux autres, si toi t'étais pas là, ils verraient pas la possibilité d'être encore là à plus tard, là,
ben, un exemple drôle, là, pis ça c'est comme une claque d'en face quand en 2021 j'avais pas été mis sur le programme. Il y a 5 gars au 1500 mètres dans mon épreuve qui avaient été cardés au Canada. Ces gars-là avaient tous couru plus lent que moi dans l'année, puis de plusieurs secondes, t'sais. Mais t'sais, sous prétexte qu'il était un peu plus jeune, ça valait la peine. C'était moi le plus vite en chrono au pays. Puis 4 de ces gars-là sur 5, ils avaient couru leur record personnel dans les courses où moi, j'étais en avant, puis c'est moi qui avais fait que la course était rapide.
T'sais. Ah ouais, hein?
Fait que littéralement, ces gars-là auraient pas couru...
Si t'étais pas là.
Si j'avais pas été là. Ouais. Il y avait quand même une ironie là-dedans.
Ouais. Genre, c'est moi qui ai fait qui ont fait leur PB, ou c'est pas toi qui as fait ça, mais genre, t'as participé au fait que la course soit vite puis qu'ils fassent leur PB.
Puis ça, c'est un éternel... T'sais, c'est vraiment un cycle éternel, dans le sens que quand j'avais 23-24 ans, puis pour la première fois, j'étais niveau podium au championnat canadien senior, ben il y avait à l'époque un athlète qui s'appelait Nate Brennan, que lui avait dans la trentaine, puis lui c'était comme son dernier cycle. Lui, ça faisait déjà plusieurs années qu'il gagnait tout le temps, puis là je le challengeais, tu sais. Puis on courait tout le temps head-to-head, puis moi c'est ça qui m'a poussé vraiment aller chercher le niveau supérieur, puis me dire il faut que je le batte si tu sais aux Olympiques puis aux Mondiaux je veux faire de quoi de bon, parce que lui c'est là qu'il compétitionne.
Ouais.
Puis si ça n'avait pas été de lui puis d'avoir cette personne-là dans la mire, Je sais pas jusqu'à quel point j'aurais pu vraiment me développer. Puis, c'est important comme athlète qui grandit d'avoir des repères puis de dire « Ah, ben il y a quelqu'un qui a déjà été. Je pense que je peux y aller. »
Ouais.
Puis moi, je donne beaucoup de crédit aux athlètes qui sont un peu plus vieux et plus expérimentés, mais c'est eux qui traînent le talent vers le haut d'une certaine manière.
Oui, exact. Puis,
j'ai été dans les deux positions. J'ai été dans la position de celui qui chassait, puis là, je suis dans la position de celui qui a une cible dans le dos, là, puis qui se fait chasser. Fait que je pense que je peux parler des...
Là, t'es en connaissance de cause maintenant.
C'est ça.
Mais toi, tu dis qu'en ce moment... tu me disais ça avant qu'on enregistre. Là, tu es en pleine santé, en pleine forme. Mm-hmm. Tu cours à peu près 140 km par semaine.
Ouais.
C'est drôle parce que, spécialité 1500 mètres, c'est pas mal. Là, en fait, là, j'imagine que tu es vraiment focus juste sur le 1500 mètres.
Non, 1500 mètres puis 5000 mètres.
5000 mètres aussi?
J'ai deux épreuves. Là.
Okay. Ouais. Est-ce que tu vises le 5000 aussi, j'imagine, pour les Olympiques Paris?
Ouais. Ben, l'été dernier, j'ai couru 1500 et 5000 aux Mondiaux.
Ouais.
C'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire encore cet été. Il y a d'autres Mondiaux à Budapest puis après ça aux Jeux Olympiques de Paris.
C'est quand même un bon combo, là. C'est quand même du stuff.
Ouais, c'est raide. C'est quand même... on se prépare un an de temps pour ça. Puis dans le fond, moi, mon épreuve favorite, c'est le 1500 mètres. Puis dans l'horaire, le 1500 est avant le 5000. Ouais. Donc, c'est un peu une situation où moi, mon gros focus, c'est le 1500. Je peux le faire. Puis une fois que j'ai terminé le 1500, 5000 devient un peu un bonus.
Un bonus, oui.
Puis aussi, il faut dire que l'été passé, j'étais un peu dans une position préférentielle dans le sens que on était deux qualifiés au 1500 puis deux qualifiés au 5000 puis chaque pays peut envoyer trois athlètes, mais là il y a des jeunes qui poussent, tu sais, fait que peut-être qu'on va être 3, 4, 5 à se battre pour trois spots au 1500 mètres ou au 5000 l'année prochaine, l'autre d'après. Fait que tu sais, même si je veux faire les deux, peut-être que je serais pas en mesure de faire les deux, peut-être qu'il va falloir que je me spécialise s'il y a une des épreuves qui devient plus compétitive. Fait que dans le fond, c'est ça. Moi, je garde ça dans mon arsenal. J'ai deux épreuves. Puis quand le temps arrive, on décide un peu de qu'est-ce qu'on fait.
À quel point est-ce que l'entraînement pour le 1500 et pour le 5000 et se ressemble?
Ça se ressemble beaucoup. Là. Pour de vrai, là, c'est drôle parce que physiologiquement, l'entraînement pour 1500, 5000, 10000 puis demi-marathon est quasiment le même.
Ah ouais, hein?
Parce que quand tu décortiques les filières énergétiques dans un 1500 ou dans un 5000 ou dans un 10000. 1500, je pense que c'est quelque chose comme 85% aérobique puis 15% anaérobique.
85% aérobique?
Aérobique.
Fait que sous ton seuil d'anaérobie, dans le fond.
Fait que dans le fond, ça, ce que ça veut dire, c'est que...
Sur le 1500 aussi.
Ouais, fait qu'un bon coureur de 1500, c'est quelqu'un qui est extrêmement fort aérobique. T'sais, quand on dit quelqu'un de fort aérobiquement, on peut... Habitude, ce qui vient en tête, c'est genre un marathonien, un skieur de fond, c'est du monde qui font des longues distances, mais les qualités de base d'un bon coureur de 1500 mètres, c'est ça. Puis tu sais, les pourcentages tiltent un peu, mais pas beaucoup. Là. Fait que mettons, au 5000, ça serait 89% aérobique, puis 11% anaérobique. Fait que, en bout de ligne, s'entraîner pour un, c'est comme s'entraîner pour l'autre. Puis les vraies différences, c'est extrêmement spécifique. Entre les deux épreuves, ben tu viens aller travailler dans le, mettons, si tu veux piquer au mois de juillet, mais tu travailles ça dans le mois avant.
Mm-hmm.
Mais dans le reste de l'année, là, le travail est pratiquement le même. Si tu veux être un coureur world class au 1500 ou au 5000, ton entraînement est quasiment pareil.
Ouais. C'est fou, hein? Parce que le temps est quand même pas mal largement différent. Hein?
Ouais. Non, mais c'est comme ça que le corps fonctionne.
Ouais, c'est
pas
ça, exact.
Décrire. Au 800, c'est là qu'il y a vraiment une balance. C'est encore majoritairement aérobique, le 800 comme épreuve, mais l'anaérobique prend beaucoup de place, puis aussi la vitesse max prend beaucoup de place. Puis ça s'apparente plus à un long sprint. Mais le passé 800 mètres, c'est là que physiologiquement, on tombe dans les épreuves d'endurance. Fait que, c'est comme si toute épreuve qui est au-dessus de 2 minutes, c'est comme 2 minutes et moins, on peut quasiment parler d'un long sprint, mais toute épreuve qui est
au-dessus de ça
c'est les capacités aérobiques, donc l'endurance qui prime.
Fait que de là, le 140 kilos par semaine, qui peut paraître vraiment beaucoup, là, tu sais. Ouais. Peut paraître, tu sais, des marathoniens qui doivent faire 160, 180, mettons, là,
tu sais. Mettons, les marathoniens professionnels, ça va être entre 160 puis 220, ouais. Là. C'est ouais. Un gros range quand même.
Ouais.
Des bons coureurs de 5000, 10000, ça va être entre 140, 160.
Puis,
mettons, quelqu'un qui fait plus 1500, 5000... Ça va être entre, moi je dirais entre 120 puis 160. Puis ça dépend un peu de ton profil.
Ouais.
Tu sais, du monde qui a une vitesse là, puis une puissance naturelle exceptionnelle. Puis ça, c'est le monde qui va avoir tendance à faire un peu moins de volume.
Mm-hmm.
Mais moi, je suis un athlète qui répond bien au stimulus aérobique, au stimulus d'endurance. Fait que pour un gars de 1500 mètres, je cours quand même un bon volume.
Ouais. Puis j'imagine que dans ta planif, y a beaucoup de temps dans cette zone aérobique-là.
Ouais, ben tu sais, j'ai deux ou trois entraînements d'intervalle par semaine. Le reste du temps, c'est du genre de zone 2, là. Fait que ouais. c'est du volume facile. Puis il y a un entraînement par semaine, ça va être travail aérobique ou seuil aérobique. Fait que tu sais, c'est comme des entraînements de marathonien, là, littéralement. Ouais. Là. Une fois par semaine.
Un genre ça. De tempo, là.
C'est ça, des tempos. Puis ça, c'est une grosse partie du programme. C'est comme si une fois par semaine, on a un genre de tempo.
Oh, ben, mettons que tu décortiques ta semaine là, au ouais. complet pour ceux qui nous écoutent. On peut aller geek, là, c'est pas ouais. grave. Là. Genre, okay. Tu peux aller vraiment précis. Là, okay. on est là. Puis t'es pas obligé de dévoiler tous les secrets de la potion magique. Ouais, là, mais
mais tu sais, c'est juste, en gros, ça prend un équilibre entre l'endurance et la vitesse.
Ouais.
Puis quand on commence à l'automne, quand j'ai pas de compétition, on y va vraiment large. Puis plus les compétitions approchent, plus on y va spécifique avec des trainings à des paces qu'on veut viser en compétition. Fait que, mettons, ce qu'on fait habituellement, c'est que c'est à peu près 140 kilos semaine. Je vais faire une séance d'entraînement, genre par intervalle tough, puis après ça va être deux jours avec juste des jogs faciles.
Mm-hmm.
Ça, c'est quelque chose qu'on a changé dans les dernières années. T'sais, comme je dis, je suis plus vieux.
Ouais.
Au lieu de faire une journée de training, une journée déjoguisée, une journée de training, puis comme une espèce de cycle avec
en alternance 1-1.
Ouais. Là, c'est comme j'ai toujours deux journées plus faciles avant un autre training. Puis ça me permet de récupérer, mais ça me permet aussi à chaque training d'aller chercher plus mm-hmm. de moi-même. Puis dans le fond, une fois par semaine, minimum, va avoir du seuil, tempo.
Ça s'articule comment, mettons, c'est un jeu?
Ben, tu sais, mettons, moi, ça va être à peu près à 3 minutes au kilo.
Ouais.
On sait qu'à 3 minutes au kilo, je dépasse pas mon seuil aérobique.
T'as les pulsations à combien à peu près? Tu dépasses pas ton seuil aérobique?
Non, anaérobique,
c'est ça, ok.
Fait que tu sais, ça doit être à peu près 150-160, ouais, je sais ouais. pas. Puis,
tu sais, checkes pas trop ça?
Non.
Tes pulsations? Non,
c'est plus au feeling qu'on okay. va, nous autres. Ouais. On a fait des tests lactates, puis on sait qu'il y a comme un range de pace quoi, avec lequel ouais. on travaille.
Tu sais quoi ta perception d'effort sur ce pace-là? Fait que t'es au courant.
Faut que ça... Dans le fond, l'élément clé d'un entraînement de tempo, c'est que quand tu termines, faut que tu te dises j'aurais pu en faire pas mal plus.
OK.
Puis tu sais, mettons pour moi, ça va être... Mettons, 6-7 fois 2 kilos avec une minute de récup.
À 3 du kilo.
5 fois 3 kilos avec une minute de récup. Puis c'est récup très courte.
Active ou juste marche?
Jog tranquille. Mais tu sais, c'est pas super actif, mais je bouge quand même.
Ouais.
Fait que le truc du tempo, c'est que tu gardes les récups tellement courtes que si l'effort est trop gros, tu le sentirais. Ouais. Dans le fond, des fois, il y a du monde qui prennent beaucoup de récup, puis là, ils disent hey, « mon pace tempo, il est pas pire », tu sais, mais le but du tempo, c'est quasiment, il faudrait que tu sois capable d'en faire quasiment à l'infini avec pas beaucoup de récup. Fait que moi, c'est une minute et demie max. Puis tu sais, si je fais 5 fois 3 kilos, ben il faut qu'à la fin de ça, je me dise « j'aurais pu en faire un ou deux autres quand même, là,
en contrôle ». Fait que dans le fond, le concept étant de pas dépasser ton seuil anaérobique fait que tu accumules pas de lactique plus ouais. que tu es capable d'en évacuer, dans le fond.
C'est
techniquement,
ça.
Tu peux continuer. Ouais. Si tu t'alimentes bien, tu peux c'est continuer
ça.
Toute la journée.
C'est ça.
Ouais.
Ouais. Puis, un par semaine que c'est de même.
Ouais.
D'habitude, un entraînement tempo. Puis, l'autre entraînement dans la semaine...
Puis, il est pas trop tough pour qu'il soit pas le fun, mettons.
Non, dans le fond, ces entraînements-là, ils sont durs mentalement parce qu'ils sont longs.
Ouais, c'est ça.
C'est surtout ça. Faut que tu sois bien à juste genre.
Longtemps
t'es dans,
à faire
t'es dans
ça.
Dans ta zone, puis parce que c'est. Ça revient quand même 45-50 minutes d'intervalle. En continu, puis tu sais, c'est ennuyant. Là. Fait que ouais. c'est l'aspect mental, il joue pas beaucoup.
C'est un genre de 15 kilos. Là.
Ouais, à peu près entre 10 et 15 kilos habituellement que je vais faire. Puis, tu sais, c'est ça, ces trainings-là aussi, aérobiquement, tu sens que tu peux continuer, tu sens que ta respiration, t'es pas à bout de souffle. Mais souvent, l'espèce de limite, c'est le volume. Fait que tu sais, si j'arrive à 15 kilos, c'est comme. Tu sais, je pourrais continuer, mais il n'y aurait pas tant de bénéfices à continuer. Ouais, là. Tu sais, là, à un moment donné, c'est plus ça. Là.
L'adaptation est faite. Là.
C'est ça.
Ouais.
Puis après ça, les autres entraînements, l'autre entraînement de la semaine sur piste, là, d'habitude, je me mets pas mal à bloc.
Okay.
Tu sais, le tempo, c'est sous max. Puis quand je termine, je suis capable de dire « OK, j'aurais pu en faire d'autres ». Mais là, l'autre entraînement d'après, d'habitude, tu sais, je vais au battre.
Ouais.
Tu sais, parce que... Tu sais, des fois, ce qui est drôle, c'est que les gens vont faire des entraînements, ils vont dire tu vas pace 5 kilos, puis pace 1500 ou pace 3 kilos, puis tu dépasses pas ça. Tu sais, si mon pace 3 kilos, c'est 61 autour, ben tu vas pas plus vite que ça. Tu sais, mais la réalité, c'est que dans les courses au niveau international, un 3000, mais ben, mettons, tu vas courir des 61 autour pendant X tours, mais à la fin, c'est un sprint.
Tu races le dernier, de toute façon.
Tu sais, puis c'est pas vrai que. Les courses d'endurance, ça prend pas de vitesse. On s'est rendu que même les demi-marathons et les marathons, ça finit au sprint. Là.
Ouais.
Puis ça prend cette gear-là. Puis être capable d'enchaîner des intervalles durs, puis à la fin
de racer le dernier.
De vraiment donner l'effort comme sprint maximal, faut être capable de le faire. Fait que c'est ça. L'autre entraînement dans la semaine. Autant il y a un des entraînements dans la semaine qui est sous contrôle, l'autre, c'est genre des intervalles qui sont tough en partant.
Ouais.
Puis rendu à la fin du training, d'habitude, c'est un peu genre, il reste 200, 300, 400 mètres, puis tout ce qui te reste dans les jambes. Là, puis ça prend pas mal de temps à récupérer de ça.
Ouais. Puis ce training-là, mettons, quand tu dis les intervalles qui sont tough dès le début, des 600, des 800 ou plus des 1500?
Ça dépend. T'sais, dans le fond, si je me prépare, si on fait un spécifique 5000, les intervalles vont être autour de 1000-1200, entre 800 et 1200 mètres.
Ouais. Sous le pace du 5 ou comme tu te mets à ben pace du 5 et après là, ça t'essayes de dropper?
C'est pace, mettons la première rep du training, c'est pace 5 kilos. Ouais. Après ça, on fait juste dropper puis on fait juste aller de plus en plus vite. Fait que tu sais, ça donne, dans une préparation 5000, ça, tu sais, mettons, mon record personnel, c'est 2,37 au kilo de moyenne sur un 5000. Mm-hmm. Ben, un entraînement typique de 5000 mètres sur piste, le volume total va être sur piste va être à peu près 7 à 8 kilos. Fait qu'on en fait un peu plus. Mais le volume, tu sais, mais ce volume-là va être à une moyenne d'autour de genre 2,30-2,31.
Ah ouais.
Tu sais, c'est comme du overpace un peu. Puis. T'sais, la première rep du training va être à 2,37, mais après ça, tu suis ton drop, puis ça va.
Elle doit piquer dans les jambes, celle-là, quand même, cette pratique-là.
Mais c'est ça qui est drôle, tu sais. Le fait de faire l'autre entraînement dans la semaine qui est vraiment en contrôle, puis tu sais, être capable de faire 15 kilos à un bon effort aérobique en contrôle, ça fait que quand après ça, tu arrives sur la piste, puis tu as juste 7 kilos à faire, même si ça pince, puis c'est plus vite, tu es vraiment prêt, tu sais. Puis.
Ouais.
Dans le fond, la forme aérobique, c'est ça qui fait en sorte que tu es juste capable d'aller à un pace ultra rapide, de pousser vraiment fort, puis tu ne ponges pas de mur.
Mm-hmm.
Fait que, dans le fond, l'espèce de. C'est pour ça que le tempo, ça fait 2 ans maintenant là, que c'est quand même une grosse partie de mon entraînement à l'année longue. Là. On s'est rendu compte que si on enlevait cette fondation d'endurance-là, puis on faisait juste de la vitesse ou du travail spécifique, même si physiologiquement, je me sentais vite, puis prêt, puis fit, il manquait toujours de fond, il manquait toujours un peu d'endurance en fin de course, puis c'est drôle, je sais pas trop comment l'expliquer, mais en gros, l'espèce d'endurance de base que d'habitude on prescrirait à un marathonien ou un demi-marathonien, ben est super importante pour un gars de 1500 puis de 5000, puis on la garde à l'année longue.
Ouais. Mais comme tu l'expliquais tantôt, ça faisait vraiment du sens, tu sais, de diviser ton effort aérobie versus anaérobie. Ouais. Je veux dire, si t'as 85% de ton effort en aérobie, faut que tu restes dans cette zone-là, là, ouais. Tu sais, même si
c'est ça.
Tu peux pas passer 50% de ton temps à entraîner 15% de ta course.
C'est exactement
moi,
ça.
Moi, en natation, c'était ça que je trouvais qui était le plus problématique dans la façon avec laquelle les coachs de natation abordaient le truc, parce qu'on faisait des sets où est-ce que on s'entraînait à aller au bout, au breaking point, puis on cassait, tu sais. Puis casser dans un set, mais j'étais comme, à quoi est-ce qu'on s'entraîne à quoi? Puis là, la réponse était, ben, on s'entraîne à quand t'as l'acide lactique dans les muscles, t'es plus capable de finir. Je fais, OK, mais ça, c'est 15 mètres sur 200, là.
Ouais.
Fait que pourquoi je passe pas 80% de mon temps à entraîner le premier 175 mètres, tu sais, à place d'entraîner le dernier 25, tu sais. Puis, fait que, de voir ça de même, je pense que ça fait du sens. Là.
Ben, ça, ça a été un peu une révolution dans les dernières années dans
l'athlétisme.
Ben,
ou juste dans
le. Ben, tu sais, dans le fond, il y a eu des cycles à travers les années de comme des coachs, puis des philosophies que plus aérobique, plus anaérobique, plus aérobique. Mm-hmm. Tu pars des années 70-70, puis c'est toujours des mouvements partent et reviennent, tu sais. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, moi, je pense que dans les 20 dernières années, il y a eu, tu sais, évidemment, le dopage, il y en a beaucoup. Puis l'effet de l'EPO puis toutes ces drogues-là, c'est que ça remplace le travail aérobique.
Mm-hmm.
Quand t'as les globules bougent, quand t'as les globules rouges boostés, l'effet que ça fait, c'est exactement le même effet que quand t'es entraîné à un niveau aérobique exceptionnel.
Ouais.
Fait que là, dans le fond...
T'as plus besoin de le travailler.
Ben, t'as plus besoin de travailler ton aérobie. Fait que le monde font juste du spécifique puis du lactique à bloc, à bloc, à bloc, à bloc. Puis là, dans le fond, ces athlètes-là qui ont du succès, ben là, leurs coachs, ils font des conférences partout autour dans le monde puis sont comme, oh, regardez,
ils parlent de leur programme. C'est bon. Programme,
des espèces de programmes de malades mentales où ce qu'ils font de la vitesse trois fois par semaine. La seule raison pourquoi ces gars-là sont capables de faire ça, c'est parce qu'ils sont dopés, tu sais.
Exact.
Puis là, dans les dernières années, il y a beaucoup de
c'est
groupes.
C'est fou, c'est vraiment, c'est une bonne analyse, mais c'est intéressant.
Il y a beaucoup de groupes d'entraînement dernièrement qui ont eu énormément de succès, puis que justement, la fondation de ces groupes-là, puis c'est des gars qui sont bons de 1500 à 10 000, la fondation de ces groupes-là, c'est vraiment, ils font du travail d'endurance, là.
Ouais.
Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, puis c'est, on peut suspecter n'importe qui, mais il y a beaucoup de ces groupes-là que je suspecte pas personnellement qui se dope, puis comme nous on l'a essayé, puis c'est comme hey, ben
ça marche,
tu sais, ça marche dans le sens que si un 1500 mètres c'est 85% aérobique puis 15% lactique vitesse, ben t'as beau avoir toute la vitesse de la planète, si t'arrives à la fin de la course puis t'es trop fatigué pour aller chercher ta gear de vitesse, ça donne rien.
Ouais.
L'aérobie, c'est ça que ça fait, c'est que ça fait que t'arrives en fin de course puis ta gear de vitesse, là, tu peux l'utiliser. C'est assez seulement à ce point-là.
T'es pas trop sauté pour l'utiliser.
C'est ça. Fait que...
C'est vraiment intéressant parce que je me rappelle d'avoir entendu les histoires, tu sais, évidemment, l'histoire de Lance Armstrong, comme probablement l'histoire la plus médiatisée autour du doping de l'histoire du sport, là, tu sais.
Ouais.
Mais les histoires, c'était que en camp d'entraînement, à chaque jour, il était capable de se mettre à bloc d'un col, puis de faire ça jour après jour. Puis c'était souvent expliqué comme étant une éthique de travail irréprochable, mais je peux comprendre que si... Parce que ça prend les deux, là, même si tu te dopes, il faut quand même que tu sois capable d'à chaque jour aller monter des cols débiles debout sur ton bike. Là. Mais effectivement, que s'il peut se mettre à bloc à tous les jours sans être obligé de faire de la zone 1 aérobie, ça doit pouvoir aider. Là.
Ben, c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est les espèces de repères sur qu'est-ce qui marche en entraînement ont été brouillés avec une époque, tu sais, l'époque EPO, les années 90-2000. Tu sais, il y a beaucoup de techniques d'entraînement, il y a beaucoup de coachs qui se basent là-dessus, mais tu sais, tout est embrouillé parce que ce coaching a été fait en fonction du fait que les athlètes sont sur le PO puis ont littéralement pas besoin de s'entraîner sur leur aérobie, tu sais.
Ouais.
Puis ça, c'est vraiment une vision qu'on a appliquée, là, tu sais, de travailler plus l'aérobie dernièrement. Puis c'est pour ça que je suis devenu un vraiment meilleur coureur de 5000 dans les dernières années que j'étais auparavant. Puis de devenir un meilleur coureur de 5000, ça fait aussi que je suis un meilleur au 1500.
Ouais.
Fait que ça a été... fait que c'est pour ça que dans une semaine, il y a l'effort comme vraiment... Un des meilleurs marathoniens au monde, je pourrais embarquer dans son entraînement puis faire ça.
Mm-hmm.
Alors que lui, son deuxième entraînement de la semaine serait plus apparent à un effort marathon, évidemment. Mais ouais. Moi, mon deuxième entraînement de la semaine, là, je veux sa piste, je me sac une volée. Puis c'est ouais. plus spécifique. Puis,
puis
c'est
celui-là,
vraiment les deux.
Celui-là, le deuxième training, lui, il faut que tu lui laisses du temps pour revenir parce que probablement que c'est là que les blessures peuvent arriver parce qu'il y a plus de pression sur les tendons, les muscles, les tissus.
Dans le fond, c'est comme si le défi dans le training aérobique là, qui est plus facile, c'est de garder une bonne mécanique pendant un vraiment bon bout de temps. Ouais. C'est comme quand je parlais tantôt de l'espèce de l'ennui. Là.
Ouais.
C'est pendant 50 minutes là, d'avoir l'espèce de focus mental de dire « je cours bien puis j'ai une bonne mécanique ». Là, tu travailles ton aérobie et ta mécanique sur long, mais là, après ça, quand tu arrives sur l'entraînement de piste, là, c'est genre « je vais le plus vite que je peux, je suis pas loin d'effort max ». Mais il faut quand même que ma mécanique atteigne le coup.
Mm-hmm.
Là, il est là le défi. D'être efficace à très haute vitesse,
ouais.
sous pression. Puis là, en bout de ligne, c'est la combinaison des deux qui fait que la forme elle vient. Là.
Ouais. Ouais. Est-ce que. Fait qu'après ça, tu as des jogs encore. T'as-tu une long run tout le temps ou t'en as pas?
J'ai des jogs. Des long runs, on en fait quelques fois par année, dépendant du temps de l'année. Puis c'est pas quelque chose qu'on mise beaucoup dessus.
Ouais.
Dans le sens qu'à mon niveau, comment mon coach il voit ça, c'est qu'à mon niveau, partir puis courir 2 heures, je suis capable.
Mm-hmm. Ben oui, c'est ça.
Puis cette capacité-là de courir lentement pendant 2 heures, c'est pas quelque chose qui m'amène de quoi quand c'est le temps de faire un 5000 ouais. ou un 1500. Mais quand je vais faire des long runs, ça va être un peu style tempo où une bonne partie de la long run va être.
Ça sera pas un long jog, à une
bonne vitesse sous max.
Ouais.
Puis dans le fond, le défi, c'est juste de garder cet effort sous max là, puis d'avoir une bonne biomécanique sur une durée 1h10, 1h20, 1h30. Puis ça, on le fait. T'sais, je le fais plus à l'automne, quand il n'y a pas trop de compé. Ou, mm-hmm. c'est comme si faire cette long run là avec un effort soutenu 1h30, ben là après ça. C'est comme de l'entraînement pour l'entraînement. Après ça, quand ouais. je fais ça, là, faire les longs tempos
c'est ça.
En fractionné deviennent plus faciles. Puis les longs tempos en fractionné, quand ils deviennent faciles, ben là, ça
permet à l'autre à faire.
Ça permet, quand je vais sur piste, d'aller vite.
Mm-hmm.
Tu sais, là, 7 kilos d'intervalle sur piste, ça file comme pas
ça
beaucoup.
Ça passe vite, oui.
Ça passe vite. Puis aussi, il faut dire qu'il y a l'aspect vitesse qui est important. Une fois aux 10 jours à l'automne, comme en préparation générale, je vais sur la piste et je fais des sprints maximales de comme 60 mètres.
Ah ouais, hein?
Vraiment travailler biomécanique, sprint comme la technique comme un sprinteur frais.
Ouais.
Puis là, d'avoir cette. Puis surtout en vieillissant, il faut que tu l'entretiennes.
Ouais.
Entre 20 et 25 ans, tu as de la vitesse, puis elle est là, puis elle part pas. Mais quand tu vieillis, il faut que tu l'entretiennes, puis ça a été prouvé. Puis le fait d'être capable de garder cette top vitesse-là, ben là, ça fait que quand tu viens dans les entraînements plus spécifiques, ben là, d'un bord, tu as tout ton long qui te back, puis de l'autre côté, ben ma vitesse max est à son meilleur. Fait que tu sais, il y a toujours l'aspect aussi que, disons que mon 200 mètres le plus vite que je peux faire, c'est 24 secondes, puis si mon pace 1500, c'est 28 secondes,
mm-hmm.
ben, tu sais, j'étais à un certain pourcentage de ma vitesse max. Puis il y a du monde qui arrête, quand ils vieillissent, ils ne travaillent pas leur vitesse. Puis c'est comme
que
si
la vitesse max fait juste ralentir tranquillement.
La vitesse max ralentit tranquillement.
Ton pourcentage augmente.
Puis c'est ça. Fait que là, dans le fond, tu dis, tu sais, mon pace 1500, avant, mettons que mon pace 1500, c'était 85 ou 90% de ma Vmax, mais là, c'est rendu 95.
Ouais.
C'est sûr, ça devient plus tough.
Ouais.
Fait qu'on entretient la vitesse aussi, comme une fois, au moins une fois au 10 jours.
Ouais.
Puis c'est ça, c'est complet. Il y a de l'entraînement de marathonien, littéralement de l'entraînement de sprinteur.
Ouais, c'est ouais. ça, hein?
Ouais.
C'est le sweet spot, là.
Ouais.
Puis c'est quoi la différence? Tu sais, parce que quand tu arrives sur une course internationale, une compétition internationale, que ce soit les Olympiques ou les championnats du monde, mettons, il y a beaucoup de gestion de course parce que c'est pas un essai de temps. Tu sais, t'es pas.
Non, c'est des courses stratégiques.
Tu te mets pas à bloc dès le moment. Fait que c'est quoi la différence? Mettons, comment tu te prépares à une course que tu sais pas va aller à quelle vitesse versus te préparer, mettons que je te dis demain, ben c'est mon cas en fait, demain je fais un essai de temps sur 5 km au centre des glaces. Là. Puis je me prépare pour partir au pace que je sais que je suis capable, ou je pense, mm-hmm. ou j'espère être capable ouais. de tenir, mettons. Ouais. Puis, puis je pars pour ça, tu sais.
Ouais.
Mais il y a une différence entre ça puis me dire, je m'en vais dans un 5 kilos, je ne sais pas le, à quoi ça va tenir, je ne sais pas à quoi ça va partir, je ne sais pas combien ça va tenir ouais. pendant la course, puis il faut que je kick, tu sais. Comment tu te prépares, c'est quoi la différence entre les deux? Puis est-ce que tu fais des fois des time trials?
Ouais, ben, en fait, c'est dur. Se préparer pour ça, c'est dur. Puis moi, ça a été un de mes points faibles, justement parce que j'ai été blessé pendant 4-5 ans d'affilée, puis ouais. avec des expériences de compé vraiment limitées.
Ouais.
Fait que quand j'arrive, tu sais, puis ce qui arrive, c'est que dans ces types de courses-là où le pace, il donne des coups, ça va vite, ça ralentit, ça va lent, puis là, à la fin, c'est un gros sprint.
Ouais.
Souvent, là, c'est comme en termes de positionnement, t'as une fraction de seconde pour prendre une décision, pour y aller ou pour te retenir.
Pas y aller, ouais.
Puis, faut, tu sais, même sous un effort vraiment.
T'es déjà à l'effort, là. Non, ces compétitions-là sont pas faciles, là,
non,
pour personne.
C'est ça, il n'y a rien de facile là-dedans, mais en plus de l'effort physique que tu donnes, il faut que tu aies la clarté d'esprit de prendre des décisions, littéralement, des décisions qui doivent se prendre en dedans d'une fraction de seconde. Puis.
Mm-hmm.
Ça, c'est de la pratique, c'est de l'expérience. Puis c'est pour ça que moi, je trouve que j'ai eu un peu de misère avec ça dans les deux dernières années, dans ces occasions-là, de courses plus stratégiques. C'est parce que j'ai manqué d'expérience tellement j'ai été blessé.
Ouais.
Puis c'est ça, il faut juste que tu sois allumé. Là, puis moi, au championnat du monde cette année, au 1500, j'ai ouais. manqué la finale de 700e.
Ouais.
Puis je repasse la course dans ma tête, puis je le sais exactement c'est où j'ai fait mon erreur. Puis genre, je me dis, ça aurait pu être autrement.
C'est quoi, mettons, l'erreur que tu as faite?
Moi, je suis le début de course était lent. Puis je suis resté en arrière de peloton parce que les gars en avant, ça se pilait ses pieds. Puis
ouais.
sur les trois premiers tours, là, si tu piles ses pieds et tu joues du coude, souvent quand tu arrives au sprint final, tu n'as plus de jus.
Ça vient te chercher à la
même
fin,
si hein. tu vas à un pace plus lent que tu irais habituellement, de juste devoir te battre puis d'être physique dans un peloton, ça tire du jus. Fait que moi, j'étais en arrière, puis j'économisais. Puis là, j'attendais juste mon moment dans le dernier tour pour avoir un trou, puis passer. Puis à 300 mètres de la fin, donc dans le droit arrière.
Ouais.
C'est comme
la ouais, le droit arrière
fin,
avant le dernier.
Il y a le droit
dernier,
arrière, ouais. après ça, il y a la courbe, après ça, il y a le droit final.
Ouais.
Fait que dans le droit arrière, un champion du monde en titre, puis le gars qui était deuxième aux Olympiques, il est sorti large, puis il a fait un move pour aller à l'avant du peloton, puis j'ai embarqué dans sa foulée. Puis je me sentais bien, je sentais que j'avais du jus, puis on avait du bon momentum, assez du momentum que moi, je croyais qu'elle allait aller en avant, puis passer le gars qui était dans le lead, puis pousser le pace. Puis là, dans ce cas-là, moi, j'aurais pu me ranger dans sa foulée, j'aurais été à l'extérieur du premier corridor, ce qui est ouais. une excellente position. En deuxième position dans la courbe, puis là, j'aurais entré droit final en deuxième ouais. position. Mais ce qui est arrivé, c'est que le gars qui était dans le lead, c'était le champion olympique. Puis lui que je suivais, c'était lui qui était arrivé deuxième aux ouais. Olympiques.
C'était 1500, ça?
Au 1500.
Ouais.
Puis là, mais dans le backstretch, on a dépassé tout le monde. Puis là, après ça, le gars que je suivais, il est allé se ranger derrière le champion olympique, puis il l'a pas passé. Moi, je croyais qu'il allait passer, puis qu'il allait donner un coup.
Ouais.
Puis là, il y a eu un moment où moi, je me suis dit, t'as du jus, genre, passes-tu en avant?
Deviens-tu le leader de la course?
Deviens-tu le leader? Puis je l'ai pas fait parce que c'était le champion olympique, puis
ouais.
le deuxième.
Ouais.
Puis là, vu que j'ai eu cette espèce d'hésitation-là, ben là, ce qui est arrivé, c'est que...
Puis tu sentais que t'avais les jambes pour y aller.
Oui, je sentais que j'avais les jambes pour y aller, mais c'était comme, est-ce que t'es patient ou tu y vas? Puis là, au lieu d'y aller, je suis resté à l'extérieur. Mais là, ce que ça a fait que je passe pas à l'avant, c'est que le peloton m'a comme repoussé à l'extérieur du corridor 2. Puis là, dans le fond, au lieu d'être deuxième, je suis comme tombé cinquième, mais j'étais à l'extérieur du corridor 2. Fait que je courais de la distance en
ouais,
extra. Puis après ça, en arrivant dans le dernier droit, on était rendu comme 5 de large, puis c'était un sprint final assez endiablé. Puis j'ai été capable de remonter un peu, mais pas assez pour être dans le top 5. J'étais arrivé 7e à 700e. Puis tu sais, dans le fond, à cause de ce move-là que j'ai pas fait, tout mon dernier tour, je l'ai couru dans le deuxième corridor,
ouais.
à l'extérieur.
Ouais. 700e, c'est là. On ne peut pas le chercher trop loin.
Dans le sens que le deuxième corridor, c'est une piste de 400 mètres, c'est 407 mètres.
C'est ça.
On court à 7 mètres seconde.
C'est ça.
Fait que j'ai couru 7 mètres de plus que tout le monde, ce qui est une seconde. Puis
ouais.
J'ai manqué de 7 centièmes. Fait que, tu sais, après cette course-là, c'est comme je le revois le moment. Là.
Ouais.
Comme j'ai eu peur parce que c'était le champion olympique puis ouais. Le vice-champion olympique. Mais j'avais les jambes pour y aller puis j'aurais dû y aller.
Ouais.
Fait que c'est ça, les courses stratégiques, ce qui est difficile, c'est que tu peux pas les prédire. Il faut que dans le moment, dans une fraction de seconde, tu aies la clarté d'esprit de prendre les décisions. Puis ces décisions-là, ils ont un impact sur toute la course.
Ouais, exact.
Puis
c'est l'expérience, c'est ça que tu dis.
C'est l'expérience, c'est ça. Puis moi, mon expérience à des mondiaux, à des Olympiques, avant ça, ça datait de 2016.
Ouais.
J'ai quand même été un 6 ans à des blessures, ouais. Avec pas d'exposition dans les courses internationales.
Mm-hmm.
Puis là, j'arrive là, puis je me rends compte que mes espèces de capacités tactiques n'étaient pas affûtées. T'sais. Puis
ouais.
Ça fait partie de la vie. Puis là, je pense que j'ai plus d'étui dans mon sac à outils pour l'année prochaine, pour les Olympiques qui s'en viennent. Mais c'est ça, tu peux pas vraiment pratiquer ça.
Ouais, c'est ça, faut que t'en fasses.
L'expérience, faut que t'en fasses.
Ouais. Puis, tu sais, quand toi, t'es. Mettons que t'as un. Tu sais, Jacob Ingebrigtsen, là.
Ouais.
Qui était probablement un de ces gars-là que
ouais,
tu parles.
C'est lui qui était en avant.
C'est lui qui était en avant puis qui lidait la course.
Ouais.
Tu sais, lui, mettons, il est souvent, sûrement moins à bloc que la plupart du monde pendant le 1500, tu sais.
Ouais.
Fait que, tu sais, des erreurs ou des affaires de stratégie, mettons qu'en est, lui, il chie un petit peu sa stratégie, ouais. Il se fera pas avoir de même.
Non,
t'sais,
lui, mais tu sais, du monde comme ça peuvent s'en permettre un peu plus.
Ouais, c'est
même.
Ça. Ouais. Sauf que c'est pas tout le monde qui est comme
c'est ça.
Ouais. Puis, eux autres... Parce que je sais que c'est la méthode norvégienne là, qui est aussi en triathlon en ce moment, qui est comme super basée sur la science, mettons.
Mais sur l'aérobie, justement.
Oui, mais sur le lactate aussi beaucoup, puis ils travaillent vraiment...
Dans le fond, c'est que la méthode, c'est un peu comme ce que je décrivais tantôt, là, de vraiment miser sur le développement aérobique.
Ouais.
Mais eux autres, au lieu d'y aller au feeling, puis savoir leur zone...
En effort.
Grosso modo... Ouais. Ben, c'est ça, ils font les tests lactates, ils checkent leur fréquence cardiaque, puis
ouais.
Eux autres, le suivi, c'est ça. Le suivi est plus scientifique, mais en bout de ligne, les résultats, c'est qu'ils misent vraiment en gros sur le développement aérobique.
Ouais, sur le genre de truc qu'on parlait tout
ouais,
à l'heure.
C'est
là. Ouais. Mais ça, c'est hot quand même de... Tu sais, parce que là, il y a le Norwegian Train là, en triathlon qui est ouais, comme Gustav Iden puis Christian Blumenfeld. Ouais. Puis il y a des documentaires maintenant sur YouTube. Tu vois, ils ont tellement de cossins pour calculer des affaires.
Ouais.
Tu sais, des fois, ils ont genre une pastille qu'ils mettent dans leur bouche pour calculer la température corporelle
parce
que c'est plus précis qu'une affaire sur le côté.
Ouais.
Et tu te dis, man, ça devient tellement... ça devient tellement de la science, là. C'est fou, là.
Ouais, c'est fou. Ben, tu sais... J'ai un ami en triathlon, Tyler Mislachuk, qui est quand même des top 10 aux Jeux olympiques en triathlon. Là.
Mm-hmm.
C'est drôle, j'y parlais, puis on avait justement cette discussion-là sur comment la course à pied, là, c'est vraiment pas scientifique ou comme... Le mal qu'on se donne à l'entraînement pour comme avoir des données scientifiques, des affaires dans le même, ça n'a rien à voir avec le triathlon. Pis
ben non, c'est ça.
Le vélo, ça, c'est des sports où c'est que moi, je trouve que c'est maladif. Là.
Ouais.
Ça m'a amené, c'est pas sain là, de tout mesurer comme ça au millimètre près.
Au millimètre près, puis même au watt près, là,
ouais,
en vélo.
Là. Moi, j'ai déjà entendu des histoires en vélo que les nutritionnistes, ils savent que tu vas être dans une course pendant tant de temps, ils savent que tu pédales tant de watts par heure, fait qu'ils vont préparer un lunch qui va te donner le nombre de calories.
Exact.
Tu ne dépasseras pas de une calorie ce que tu dépenses dans ta course, parce que si tu dépasses de une calorie, ben là, tu vas peut-être gagner 3 grammes. Là.
Ouais. Ouais.
C'est des malades dans la tête. Là, en
c'est
course,
fou,
en course à pied, on fait jamais des choses comme ça. Puis tu sais, surtout avec le... Les troubles alimentaires qui sont
ça,
rampants dans le sport d'endurance.
C'est ça, l'affaire.
Mais quand tu t'es rendu que ton équipe médicale elle se met à calculer tes calories et cette affaire-là, tu dois virer fou. Là,
ouais.
Genre, moi, là, je vais encore prendre une bière une fois de
exact,
temps en temps.
Exact, c'est ça. Ouais, puis de la santé mentale là-dedans, là, c'est important. Ça. C'était quoi? C'était Salazar, là, le coach. De Nike là, ouais. qui avait été pogné dans l'espèce de grosse controverse.
Ben, lui, c'est que lui, une des raisons pourquoi il a été banni, puis c'est, la controverse, c'est qu'il était extrêmement contrôlant avec ses athlètes, puis contrôlant un peu de cette manière-là de traquer leur sommeil, de traquer leur poids, leur niveau de graisse, toutes ces affaires-là, puis de tout calculer comme ça. Là. Puis ces athlètes sont tous retournés contre lui, puis ont tous...
Ouais, c'est ça que c'est... Ouais. Un recours collectif. Là,
c'est un genre de recours collectif contre lui, puis ils ont tout dénoncé. Tu sais, c'est pas sain, ça. Là.
Mais non.
Tu sais, puis... Moi, je l'ai vécu, je l'ai vu avec d'autres athlètes. Quand la santé mentale va bien, c'est là que tu performes.
Exactement.
Quand tu as du plaisir, peu importe c'est quoi qui te procure du plaisir dans la vie, c'est là que tu arrives à l'entraînement, tu n'as pas de poids sur les épaules, c'est là que tu as du fun, c'est là que tu performes.
Exact.
Fait que moi, quand on parle des histoires de gars de vélo qui roulent 6-7 heures par jour, puis qui calculent leurs calories, puis qui genre, ils se font des cocktails de boîte parce que faut pas qu'ils gagnent 3 grammes, mm-hmm. puis que... faut qu'on voit leur côte puis des affaires dans la même. Moi, j'ai de la misère à adhérer à ça. Puis je suis quand même content que l'athlétisme et la course à pied soient dans sa culture, soient pas aussi intenses que ça. Là.
Ouais. Ah, c'est clair. C'est clair, mais c'est vraiment un bon point ce que tu dis, que si la santé mentale va bien, tout le reste va bien. Tu sais. Puis même si la santé globale va bien, en fait, que ce soit mentale ou physique. Là.
Mais c'est, à m'amener aussi, c'est que t'as toute la science qui dit que tu peux avoir un poids idéal, que où tu vas maximiser tes apports de sucre comme tu veux, puis que tu vas pouvoir avoir ton wattage, toutes ces affaires-là. Mais t'as aussi la science qui dit que si tu dors bien la nuit, ben tu sécrètes les bonnes hormones.
Ouais.
Puis si tu manges bien, tu sécrètes les bonnes hormones. Puis
si tu prends du soleil le matin, tu as des affaires assez standards.
Même, tu sais, que genre, si t'es pas stressé, tu vas sécréter de la testostérone ou le sécréter du cortisol.
Mm-hmm.
Tu sais, le cortisol, ça te gruge l'énergie puis ça te rend plus fat. Mais si tu es content puis que tu te sens bien dans la vie puis tu dors bien, tu sécrètes de la testostérone. La testostérone, naturellement, ça te rend lean.
Ouais.
Ces choses-là, c'est la base aussi. Là. Fait, mm-hmm. Si tu es content, je sais pas moi, tu sais, tu t'entraînes avec un groupe d'amis qui tu te sens bien, ou t'as une blonde puis ça va bien, ou tu sais, t'es à l'école puis les affaires à l'école vont bien, ben généralement le reste va aller bien aussi, puis l'impact d'espèce de santé mentale, ce que ça a sur le corps à travers la sécrétion d'hormones, c'est tout autant important, sinon plus, que l'espèce de simili-science de calculer des grammes de ci, de ça pour dans la nutrition. Puis moi je suis un gros moi, c'est quand même... Je veux plus voucher pour...
Ben oui.
Va prendre une bière.
Ah ouais, c'est ça.
Va prendre une bière.
Si ça te fait du bien, là. Ouais.
Puis après ça, le reste de ta semaine, tu vas être heureux puis tu vas pouvoir vraiment plus pousser à l'entraînement que genre essayer de vivre comme une espèce de moine puis d'avoir trop de restrictions puis que tout devienne lourd.
Mm-hmm.
Moi, j'ai de la misère à adhérer à ça. Là.
Je comprends, mais c'est la fameuse pyramide, tu sais, de... si tu fais pas... la base, arrête de me calculer les grammes de céleri que tu vas prendre dans ta soupe, là, tu sais, genre, si tu fais pas la base, après ça, si quelqu'un qui met, tu sais, tout, qui fait juste ça, tu sais, s'assurer de, comme, tout couvrir les bases, ben là, fair enough, ça t'intéresse, parce que je sais qu'il y a du monde qui nous écoute, que ça intéresse peut-être, justement, toute la science derrière, tu sais, le wattage, ces affaires-là, mais... assure-toi de faire la base. Assure-toi d'être bien dans tout ça puis de faire la base.
Ouais, il y a du monde qui sont bien là-dedans puis ils ont peut-être plus un tempérament pour leurs bases sont couvertes puis là ils sont, si tu veux calculer tout ton apport calorique puis être vraiment extrême dans ton approche scientifique pour la performance, si t'es bien là-dedans, c'est cool, c'est correct. Mais tu sais, moi, là, une fois ou deux, trois semaines, si j'ai vraiment un gros training, puis après le gros training, genre, c'était... Tu sais, l'espèce de feeling de genre, j'ai coché toutes les cases, comme je suis en forme, me sens confiant, ça, c'est cool. Ben, OK, man, on peut prendre deux, trois bières le soir, puis tant que tu fais pas le party, puis que tu manques pas ton sommeil, parce que le sommeil, c'est ça le plus important.
Exact, c'est ça. C'est ça qui est la base.
Genre, tu sais, si tu veux être un peu plus... Si tu veux comme célébrer ton entraînement avec de quoi d'un peu plus social... puis ça va juste te faire en sorte de te sentir mieux, ben fais-le, là.
Exact.
J'ai l'ai vécu moi-même, ça, puis j'ai vu des athlètes aussi se mettre dans un trou, ils ont trop de pression, c'est juste de la performance versus, genre, mettons, un événement de vie, là, genre, mettons, là, j'ai une blonde, là, tout va bien dans ma vie, là, tous les entraînements vont bien, puis tu le vois comment les émotions ils ont un gros impact sur l'entraînement, puis...
Ça relativise tout aussi, tu sais, mettons, tout va bien dans ta vie, puis t'as un mauvais training, c'est pas la fin du monde.
Ouais.
Si tout dans ta vie, c'est juste ça, puis t'as un mauvais training, ça fait chier encore plus.
Tout s'écroule, ouais, c'est
exact.
Ça. Fait que, non, moi, je trouve cet équilibre-là est 100 fois plus important que la science extrême, tu sais, puis si la science extrême, c'est ton truc, ben tant mieux, mais moi, je suis pas convaincu que c'est soutenable pour la grande majorité des gens, incluant les athlètes professionnels.
Ouais. Avec le background que tu as de piste, puis ta biomécanique, puis ton volume, est-ce que de façon plus amicale, mettons, est-ce que la route, puis le marathon, puis le plus long t'intéresse?
Quand même, là, moi, je me vois difficilement arrêter la course à pied sans avoir couru au moins un marathon.
Ah ouais, hein?
Mais moi, l'affaire, c'est que quand je vais prendre ma retraite, je vais arrêter pour vrai. Genre, je suis quand même... c'est sûr que j'ai beaucoup d'amis qui sont coureurs.
Ouais.
Puis que, tu sais, si on veut... Si,
mais tu penses-tu que tu vas arrêter pour vrai ou tu vas garder la course à pied comme un sport pour te garder en forme ou...
Non.
Tu vas trouver autre chose.
Je pense pas.
tu vas trouver autre chose que la course à pied.
Ouais, tu sais, moi, le ski alpin, c'était mon gros sport quand j'ai grandi, tu sais, puis le golf, j'adore ça, tu sais, j'ai l'impression que je vais juste prendre un break des sports d'endurance, puis l'affaire, c'est que j'ai... Peu importe le sport que je vais faire, je me donne à 110%. Puis c'est ça un peu qui me... Tu sais, du vélo, j'ai un vélo, puis j'ai du fun en vélo, puis pendant un long bout de temps, j'ai été blessé, puis je suis devenu genre quand même pas pire. Mais c'est juste l'affaire que sur un vélo, si je vois une côte, je vais me sacrer à bloc. C'est juste, c'est automatique.
C'est une maladie, c'est une pathologie.
Ouais, c'est ça. Tu sais, de juste pas être capable de pas donner ton max.
Ouais.
Tu sais, faire une ride de vélo avec genre un groupe, là, puis juste être relax, c'est comme si...
C'est impossible pour toi.
Fait que j'aimerais ça juste prendre un break de tout ça, puis d'y aller avec des sports qui sont plus le fun, tu sais.
Ouais.
Je pense que c'est sûr que je vais être impliqué dans le sport tout de même, d'une manière ou d'une autre.
Ouais.
Puis tu sais, comme je dis, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui sont coureurs encore, tu sais, puis on va-tu jogger, puis genre, prendre une nouvelle à quelqu'un au lieu de prendre un café, mais on va jogger.
Exact.
C'est le genre d'affaires que c'est sûr que je vais continuer, mais c'est du moment que je vais prendre ma retraite de la course compétitive, je vais pas tant continuer. Là. Fait que,
mais tu te vois mal prendre ta retraite avant d'avoir couru un marathon.
Ouais, mais comme je vois ça, mon plan à date, là, c'est pas mal. C'est quand même une exclusivité, là, mais tu sais.
Yeah. Exclusivité au podcast Pika.
Ça va être 1500, 5000 jusqu'aux Olympiques de Paris. Puis il faut voir comment la santé mentale va aussi après les Jeux. Là. Si je suis comme fatigué de courir, peut-être que je vais juste arrêter ça là. Mm-hmm. Mais si je sens que j'ai une autre année, ben, y a des expériences que comme... C'est une genre de bucket list que je voudrais faire. T'sais, j'aimerais ça prendre une année extra pour ces expériences-là.
Ouais.
Puis ça serait beaucoup plus de participation sur route.
Ouais.
T'sais, l'année dernière, j'ai gagné le 5 km du BAA. Là. C'est le 5 km dans la fin de semaine du marathon de Boston.
Okay.
Puis j'y retourne cette année, puis je trouve que l'ambiance sur route est exceptionnelle.
C'est le fun. Fait
que faire plus de courses sur route en 2025, comme des 5, des 10, des demi, encore faire de la piste. Tu sais, il va encore avoir des mondiaux en 2025, ça va être à Tokyo. Moi, c'est un peu une rédemption après avoir manqué pour cause de blessure les Jeux Olympiques de Tokyo. Ben, peut-être bien que ça va être un 5000 ou un 10000 à Tokyo en 2025. Puis je pense que rendu en novembre 2025, je ferais un marathon, puis ce serait probablement la dernière course de ma vie.
Ah ouais, hein?
Ouais. C'est un peu comme ça.
C'est dangereux de dire ça. Parce que d'un coup que tu y prends goût. Parce que tu l'as dit, mais je t'entendais, je t'écoutais parler, puis tu disais l'ambiance sur course, tu sais, l'ambiance sur route, puis comme l'espèce de... en tout cas, c'est sûr que toi, tu sais, moi, la course à pied, c'est relativement nouveau dans ma vie, là, tu sais. Probablement que j'aurais pas le même discours si je nageais encore pour faire du 50 dos, mettons, ouais. Là. Mais une fois que j'en ai fait un, man... j'avais pas envie d'arrêter. Là.
Ouais.
J'avais envie de faire comme, OK, non, là, ça, puis ça a chié. Parce qu'il y a plus de facteurs ouais. Shit, là. Tu sais, mettons, ouais. Sur un 1500, il y a non, plusieurs petites affaires.
Marathon,
mais...
c'est dur de faire un coup de circuit.
Marathon, t'as
là.
Plus de chances de c'est chier ça, ça mettons, vraiment, là, tu sais. Fait que si t'arrives, puis là, tu fais une grosse perfo en te disant, il me semble que j'ai chié ça, puis ça. Mm-hmm. Mais c'est sûr que t'en es juste comme, étant donné ouais. L'athlète que t'es, ça risque d'être une bonne perfo quand même. Ouais. Tu vas pas arriver au marathon faire 3:20. Là, ouais.
Ben, tu sais, moi, le gros problème avec la course présentement, c'est que pour rester en santé puis pour maintenir le régime d'entraînement que j'ai, il faut que je fasse beaucoup, beaucoup de physio.
Ouais.
Moi, ma physiothérapeute à Vancouver, tu sais, j'ai pas vraiment de maison. Moi, présentement, je vis dans une valise.
Mm-hmm.
Je vis entre Québec, Vancouver, Flagstaff, puis toutes les courses que je fais partout à ouais. Travers le monde. Puis j'ai pas vraiment d'ancrage. Tu sais, puis ça, c'est le genre de choses que là, surtout à mon âge, ça commence à se faire sentir plus ouais. Lourd un peu.
Ouais.
Fait que c'est pour ça que, tu sais, passé 2025, c'est juste que je suis pas sûr que je serais prêt à faire les sacrifices encore de voyager, de devoir être à gauche puis à je droite, puis de. Toutes les genres de sacrifices qui ont eu quand même un impact sur ma vie familiale, sociale, puis tout ça. Je pense que là, ça serait le temps que je me calme. Là,
mm-hmm.
Fait que c'est pour ça que j'en ferai un, juste pour dire, faut que j'en complète un. Mais j'ai pas le mindset que je voudrais devenir compétitif sur le marathon parce que il va être le temps que je passe à autre chose. Là.
Je comprends.
Je commence à se sentir intrinsèquement. J'ai des choses à faire. Là. Moi, mon but, c'est vraiment... faire une médaille aux Mondiaux cet été puis aux Olympiques l'année prochaine, je m'entraîne pour ça. Je suis pas là pour être une pancarte non plus.
Ouais.
Je suis pas là.
T'es pas là pour juste y aller.
Je suis pas là pour juste y aller. C'est vraiment ça mes objectifs. Puis c'est crunch time parce que c'est mes deux dernières années qui me restent. Fait que tout ce qu'il faut que je fasse pour être capable de le faire, je vais le faire.
Mm-hmm.
Puis la priorité, ça va vraiment être ça. Mais il y a beaucoup de choses dans ma vie, il y a beaucoup de sphères dans ma vie qui ont dû prendre un step back à cause de ça.
Ouais.
Puis je pense qu'après cette dernière run-là jusqu'en 2024, ben, il va falloir que je pense d'autres choses prennent plus de place dans ma vie. Là.
Je comprends.
Ouais.
Je comprends. Parce que moi, je me disais, quand j'ai fini de nager, mettons, là, je me disais tout le temps, puis je me dis encore ça maintenant, que j'aurais continué... si quelqu'un m'avait donné 30 000 piastres par année, genre, ouais. Genre, juste pour payer mes affaires, mettons, ouais, ouais. Je me disais, j'aurais continué jusqu'à temps que quelqu'un arrête de me le donner, mettons. Ouais. Mais je peux comprendre que si là, j'avais continué rendu où est-ce que je suis maintenant dans ma vie, mettons, 6 ans plus tard, à ouais. Faire comme encore être focus de même,
ouais.
Peut-être que j'aurais le même thinking que toi de dire là, ouais, ouais. Être un sportif professionnel, mettons, gagner ta vie ouais. Avec ça. Oui, c'est le fun, mais ça fait son temps aussi à amener. Là.
Ah non, mais tu sais, il y a des journées où ce que genre, j'aimerais ça avoir une maison, là.
Tu sais,
avoir un chez nous, là. Puis de filer bien chez nous, de sentir vraiment à la maison. Puis genre, des amis vont faire un trip de ski. Genre, tu sais, juste
faire oui, je viens de revenir.
Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles à cause de l'entraînement présentement. Mm-hmm. Puis je le regrette pas parce que les expériences qu'on a quand on est au Mondiaux, aux Olympiques, ça vaut la peine. Tu sais, c'est une shot d'adrénaline,
c'est
une
sûr.
Drogue. Puis. C'est des expériences qui tu te rappelles toute une vie, là, puis aussi l'espèce de conviction, j'ai une conviction que j'ai pas atteint mon plateau encore, j'ai pas atteint, je m'améliore encore de jour mm-hmm. en jour. T'sais, ça, je veux aller au fond de ça. C'est, peu importe c'est quoi le domaine.
C'est dangereux de commencer. c'est dangereux de commencer une autre affaire ouais, avec cette mentalité-là.
T'sais. Ben, t'sais, l'affaire, c'est que il y a une date d'expiration sur le sport, évidemment.
Ouais.
Puis. T'sais, peu importe c'est quoi le domaine que tu fais dans la vie, là, que ce soit du tricot ou de la course à pied ou du basket ou du cinéma, objectivement, là, c'est quoi tes chances que tu peux être top 15 dans le monde dans quelque chose? Là. Peu
ouais.
Importe c'est quoi que tu fais,
ouais.
Tu as cette chance-là, ben moi, je veux presser le citron.
Tu veux aller
max,
au bout de l'histoire.
Je veux aller au bout de ça, je veux voir jusqu'où je peux aller. Puis, mais t'sais, une fois que ça va être fait.
Je comprends.
Puis rendu à, tu sais, à Paris, je vais avoir 34 ans, rendu ouais. là, c'est le temps, là.
Ouais.
Ça va être le temps d'aller ailleurs, tu sais. Puis de vivre avec ça. Mais là, comment je vois ça, c'est que c'est 2 ans qui me restent, puis le marathon à la fin, c'est une série Sunday pour le fun.
C'est ça, ouais,
je pense que je vais même pas l'approcher avec une goal de performance en tête, être juste d'en compléter un, tu sais. Mais rendu là, je vais être dû pour autre chose. Là.
Ça va être ça, ouais. 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 Avant de terminer, j'ai comme je te disais tantôt, moi je m'entraîne jusqu'au mon objectif A, c'est le marathon d'Ottawa.
Ouais.
Fait que là, je suis comme sur un gros build vers là,
ouais.
mais j'ai un objectif B qui était à plus court terme d'un 5 kilos que je fais demain. Au centre okay. des glaces. Okay. Littéralement demain, les gens qui écoutent ça en ce moment, je vais l'avoir déjà fait, probablement qu'ils vont savoir comment c'est allé. T'sais. Mais c'est quoi? Puis c'est un essai de temps. Là. Fait que tu sais, ouais. c'est quoi tes conseils? Genre, top 3 conseils pour un 5 kilos.
Ouais.
Ou tu sais, des affaires, mettons, parce que je me rappelle, je vais juste donner l'exemple d'un de mes amis, quand je me suis inscrit au 125 de la Ricana l'année passée, il m'a ouais. dit, quand tu vas arriver au haut de gorge,
ouais.
Faut que tu sois fresh.
Faut que tu sois fresh.
Genre, il m'a dit, faut que tu sois fresh au haut de gorge, puis il dit, si, genre, tu sens que t'es fatigué avant ça, slow down.
Okay.
Ouais. Ou ben, mettons... si tu sais un genre de conseil pour pas que je sois surpris, mettons, là, de comme à 1 kilo, tu vas avoir envie de mourir. Tu sais, de quoi demander?
Ouais, ouais,
si c'est ça. Là.
Mais je sais pas si tu as une idée de ton pace moyen que tu veux garder.
3,20.
Tu sais, mettons que c'est 3,20. Là. Un 5 kilo. En fait, toutes les distances, là, dans que ce soit dans les sprints là, ou jusqu'au marathon, une course optimale, ça se court négative split.
Ouais.
Fait qu'il faut que tu finisses plus fort que tu commences. La seule fois que c'est pas arrivé dans l'histoire, c'est le record du monde au 800. 800, c'est la seule épreuve où le lactique embarque assez pour que tu ralentisses un peu, puis
ouais.
ton temps optimal, ça va être en ralentissant à la fin.
Ouais.
Mais 200, 400, 1500, 5000, jusqu'au marathon, name it, toutes les distances, physiologiquement, tu veux finir plus fort que tu
ouais.
commences. Fait que, tu sais, mettons que ton pace target, c'est 3,20. Ben, n'aie pas peur de faire genre 3,22 à 3,25 au premier puis au deuxième. T'sais. Puis après ça, c'est crunch time, tu t'accélères, puis de, mettons, troisième kilo, 3,20, après ça, 3,19, puis dernier kilo, tu donnes tout ce que tu as, puis tu es quand même un gars en forme avec un background athlétique, tu peux closer fort avec un sprint. Là,
ouais.
Dans le sens que si tu fais 3,20 5 fois, ça te donne un certain temps. Mais si tu fais 3,22 4 fois, puis à la fin, tu drops un 3,8,
ouais.
ben là, tu vas
puis le 3,8, il se fait sur le dernier 400, mais donc tu peux aller le closer.
C'est,
là.
C'est surprenant comment tu peux aller chercher beaucoup de secondes à la fin.
Ouais.
Puis, fait que c'est ça. Si ton goal, c'est 3,20, pars pas plus vite que le 3,20.
Ça, ouais.
C'est vraiment clair. Puis aussi un bon 5000, là. 5000, c'est tough. Genre,
ouais.
c'est de loin l'épreuve sur piste la plus tough.
Nice.
On se le dit en athlète. Là,
ouais.
Puis, tu sais, les gars qui doublent 1500, 5000, on est comme, man, 5000, c'est tough. Puis les gars ouais. qui doublent 5000, 10000, sont comme 5000. C'est,
ouais.
c'est terrible.
Ouais. C'est l'équivalent du 200 en natation, là, où est-ce que c'est genre les gars du 100 mètres.
Ouais.
Il faut qu'ils allongent leur 100, qu'ils font comme tabarnak, 200, c'est tough. Les gars du 400, il faut qu'ils rapetissent leur 400, ouais. qu'ils font tabarnak, c'est tough.
Ouais. Ben, tu sais, puis la raison pourquoi c'est si tough, c'est que, tu sais, toi, t'es à 3,20, fait que tu vas courir 17, mettons, tu cours autour de 17 minutes, là. De la minute 7 à la minute 16, là, moi, j'appelle ça le hurt locker. Là. C'est vraiment un moment là, où ce que tu cours à la vitesse que tu es supposé courir, puis c'est le mental.
Ouais.
C'est vraiment là, pendant... Tu vas avoir un intervalle de 8 à 9 minutes où il faut que tu te dises « Je suis capable, man. Je suis capable. Je suis capable. »
Faut puis, jamais que tu aies une pensée de comme « Hey, man, je suis trop vite. »
Non, c'est ça.
C'est
ça. Faut que tu sois capable de pousser à travers cette douleur-là, puis c'est ça qui est vraiment difficile. Puis dans toutes les courses pro, là, le peloton est intact jusqu'à 3 kilos. Fait qu'on parle ici de comme 8 minutes.
Ouais.
Puis là, après 8 minutes, c'est là que tout s'écroule.
Ouais.
Puis c'est ceux qui sont capables de la minute 8 à la minute 12, là, de genre toffer la douleur, puis être capable de... il faut que tu aies la clarté d'esprit de dire go, 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 puis ouais. avoir aucune pensée négative, juste genre, ça fait mal, là, ça fait fucking mal, mais c'est genre go, go, go. Puis là, quand t'arrives à une minute de la fin,
là, ça
grosso
va,
modo, ouais. à un tour de la fin, là, c'est comme OK, man, il m'en reste un peu, là, puis ouais. go, là, tu donnes ton sprint. Mais les 7-8 minutes qui précèdent ta dernière minute, c'est vraiment mental, c'est une zone mentale où tu te bats contre toi-même. Puis c'est ouais. ça qui est dur avec le 5000. C'est vraiment, les meilleurs coureurs de 5000, c'est que cette zone-là, il la maîtrise.
Ils sont capables de la tolérer pendant ouais, tout ça. Ce temps-là. Ouais.
Ouais. Fait que tu sais, pars pas plus vite que ton pace moyen que tu veux te donner. Puis quand tu arrives à la moitié, il faut que tu accélères. T'sais, c'est ça l'affaire.
C'est ça.
Tu as la capacité d'accélérer, puis ça va faire mal, mais tu peux le faire.
Ouais.
Puis c'est comme, ça va pincer, mais pousse à travers. Puis là, à la fin, tu vas
finir. Est-ce que tu le divises dans ta tête? Ou tu fais juste cette section-là, la section Earth Locker, puis la fin?
Mettons, tu le vois. La section. Si tu grinces des dents avant 3 kilos, là, tu vas être dans la marde.
Ouais.
Parce que, dans le fond, c'est que si tu grinces ouais. des dents avant 3 kilos, l'espèce de section Earth Locker, ouais. tu n'es pas capable de passer à travers.
Ouais, c'est ça.
Fait qu'il faut comme tu sois au-dessus de tes moyens. Puis, si tu t'es entraîné à te faire du 3-20 pendant longtemps, mais faire 3-21, 3-22, 3-23 pendant 2-3 kilos.
Ouais.
Tu vas avoir ta petite seconde de lousse qui va te mettre en confiance pour accélérer après. Puis là, quand tu arrives dans le Hurt Locker,
t'es correct.
Tu peux gonner. Là.
Ouais. Ouais.
Fait que tu sais, c'est un peu ça. Il faut que tu sauves les meubles au début pour qu'après ça, quand ça commence à pincer, tu sois capable d'accélérer quand ça fait mal.
Ouais.
C'est ça la clé. Puis, puis c'est ça. Puis après ça, c'est juste d'être patient jusqu'au dernier tour. Puis là, au dernier tour, tu y vas. Donnes ce que t'as. Ouais.
J'ai des amis qui vont me pacer.
Mm-hmm.
Puis à quel point à 3-20, ça change quelque chose d'avoir être d'un pied de l'autre gars avant toi? Ça fait-tu une différence ou non?
Tu sais, même si c'est au centre de glace, puis il n'y a pas de vent, puis en théorie, il n'y a pas de drafting, là,
ouais.
d'avoir une figure devant toi, là, quelqu'un qui te tire, ça fait toute la différence.
Ah ouais, hein?
C'est drôle parce que on est comme pas capable d'expliquer. Tu sais, en vélo, là, il y a une résistance, une draft
ouais.
qui représente tant de pourcentage.
Ouais.
En course, là, comme...
On va pas assez vite pour que ça paraisse vraiment.
Il y en a un petit. Les journées qui ventent, ouais. oui, ça fait c'est jour et la nuit, une journée ouais. qui vente. Mais là, tu es en dedans. Mais c'est juste qu'on dirait que l'aspect mental de juste suivre, tu sais, ça l'affaire, c'est que quand tu es dans le Hurt Locker, là, si tu es capable de juste suivre quelqu'un, il y a rien d'autre qui, ouais. rentre dans tes pensées. Là, tu sais. Tu souffles en silence, mais t'es comme go, 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 go. Puis la personne est là, puis tu décroches pas. Go, go, ouais. go. Fait que si t'es capable d'avoir quelqu'un de confiance qui va te donner le bon pace, mais ça te permet, quand t'es dans le Hurt Locker, de juste pousser à travers. Tandis que quand t'es tout seul, puis là, t'as comme des gaps, ou t'essaies d'aller d'un peloton à un autre, des choses comme ça, des fois, tu sais, c'est comme si le cerveau a pensé à ce que tu as à faire,
ouais,
là,
ouais.
Ça détourne un peu ton attention à pousser. Tu sais,
c'est
pour ça que d'avoir quelqu'un sur qui qui peut te tirer, ça fait toute une différence. Même si tu es en dedans et il n'y a pas de vent.
Puis il n'y a pas de draft, pour vraiment parler. Là.
Toute la différence.
Ouais. Ouais. Très cool, man. Merci beaucoup.
Hey, ça me fait plaisir.
Yes. Puis écoute, on se reparlera l'année prochaine.
Tu me donneras une nouvelle de ton
time trial, comment ça a été. Ouais. Yes. Très cool. Merci, man.
Ça me fait plaisir.